Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Quand on ouvre les mémoires du cardinal de Richelieu à la date du 14 mai 1610, jour de l'assassinat d'Henri IV, plusieurs faits étranges sont relatés. Une religieuse, par exemple, une religieuse de l'abbaye de Saint-Paul, ne descendit pas au réfectoire pour le déjeuner. On la chercha et on la retrouva en pleurs, répétant « Faites prier pour le roi, car on le tue ». Le même jour, une sœur d'un couvent des Capucines fondit en larmes au son de la cloche qui se mit en marche sans raison. Autre fait étrange, elle aussi annonça la mort du roi. Enfin, près d'Orléans, à Pathé, lieu lié aux victoires de la Pucelle, une bergère, cela ne s'invente pas, annonça aussi la mort du roi à son père alors qu'elle ne savait même pas qui était ce roi. L'assassinat du roi Henri IV par Ravaillac s'est vite, très vite, inscrit dans la littérature, dans les mémoires, créant inévitablement la légende d'un roi qui, par certains aspects, n'en reste pas moins critiquable. Le nom même de Ravaillac est présent en théorie, on espère, dans les consciences de nos écoliers, au même titre que la bataille de Marignan, l'édit de Nantes ou bien encore l'abolition des privilèges. Je vous propose, au cours de cette émission, de rouvrir le dossier Ravaillac. Qui était ce personnage? Qui était ce personnage originaire d'Angoulême, alors qu'il affirma avoir agi seul? Fut-il finalement envoyé par un autre? Ou bien fut-il tout simplement manipulé? Si oui, par qui et pour quelle raison? Autant de questions que nous allons poser à Jean-Christian Petit-Fils. Jean-Christian Petit-Fils, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir une nouvelle fois répondu à notre invitation. Je renvoie nos auditeurs aux différentes émissions que nous avons enregistrées ensemble, celle du Masque de Fer, celle de Louis XIII, celle de Louis XVI. Vous venez d'écrire un livre, vous venez de rouvrir le dossier Ravaillac et vous avez d'ailleurs trouvé, comme nous allons le voir, des documents qui éclairent d'un jour nouveau ce dossier et les culpabilité, l'assassinat d'Henri IV, mystère d'un crime, mystère au pluriel, donc aux éditions Perrin. Je me plonge dans le sujet, Jean-Christian, et tout commence de manière assez improbable par une histoire d'amour, celle d'un roi avec une jeune femme.
Oui, quelle histoire! En effet, c'est ce contexte politico-sentimental qui va nous conduire, commence en janvier 1609, le 16 janvier 1609, très exactement, puisque ce jour-là, on répète le ballet de la Reine au Louvre. Henri IV s'apprête à sortir et croise de jeunes nymphes, de jeunes filles très légèrement vêtues, avec des javelots en carton et en bois, en train de répéter ce ballet. Et soudain, eh bien, il y a une jeune fille qui s'arrête devant lui avec le javelot et qui mime le geste de celui qui va le lancer en direction du cœur. Henri IV est ébloui par la beauté de cette jeune fille qui a 14 ans à ce moment-là, qui est Charlotte Marguerite de Montmorency, la fille du connétable. Elle est magnifique, elle est blonde, elle a des yeux bleus, elle est l'innocence même. Et Henri IV, vieux faune qui a collectionné les maîtresses, les aventures, vieux faune ridé de 55 ans, semble retrouver une nouvelle jeunesse. Il est tellement ébloui que le soir même, il a une crise de goutte qui l'oblige à rester au lit. Toute la cour vient défiler le voir, y compris la jeune fille avec sa tante. Et de là démarre cette grande affaire, cette grande histoire d'amour. La petite semble répondre à la flamme du roi. Tout cela est platonique pour l'instant, mais Henri IV ne désespère pas, évidemment, en faire sa maîtresse. D'où son idée de mariage, parce qu'évidemment, il ne peut pas faire d'une jeune fille sa maîtresse, de la marier à un homme de la cour. Et quel homme de la cour? Son cousin, le prince de Condé, Henri II, prince de Condé, qui a pour lui l'avantage d'être homosexuel. de sorte que, eh bien, c'est lui qui profitera de sa femme. Voilà, donc ce mariage se fait à la hâte et Henri II, prince de Condé, est l'héritier du trône si jamais les enfants d'Henri IV et de Marie de Médicis, les trois garçons, donc Louis, Nicolas et Gaston, le fameux Gaston d'Orléans. Nicolas mourra très jeune en 1611, un an après Henri IV. Louis deviendra Louis XIII. Mais donc si ces trois enfants mâles mouraient, eh bien la couronne passerait au Condé et notamment en particulier à Henri II de Condé.
Alors, je m'arrête quelques instants parce qu'on va découvrir, il y a la légende Henri IV, mais justement, l'histoire de l'assassinat révèle ce personnage d'Henri IV. Henri IV est un roi passionné qui se laisse aller à ses passions.
Alors, Henri IV est un très grand roi, il faut vous le reconnaître. C'est l'homme de Lady de Nantes, lequel Lady, bien sûr, est une trêve dans l'esprit du temps, avec des concessions tout à fait anormales, puisqu'il s'agit de donner des places de sûreté aux protestants, des assemblées politiques, des armées. Cela étant, cet édit va durer et va apaiser les tensions. C'est la première fois que s'affirme l'absolutisme royal à l'époque moderne, puisque le pouvoir politique se place au-dessus des religions, que ce soit la religion catholique et la religion protestante, pour imposer sa volonté de paix et de tolérance relative. Ça, c'est donc un très grand roi qui est le roi qui a cherché à réaliser l'unité des Français autour de la couronne. Mais cela étant, c'est un personnage très difficile à saisir, extrêmement intelligent, vif, vif argent, mais qui se laisse entraîner par des passions, à tel point que, contrairement à un Louis XIV voire à un Louis XV, mêle les amours et la politique. Pour Gabriel d'Estrées, pour les enfants de Gabriel d'Estrées, il essaye d'organiser un apanage. Donc, il envisage tout simplement de démembrer la France en partie. Pour la marquise de Verneuil, Henriette d'Entraigues, qui est sa dernière grande maîtresse, une femme très vive, très, très spirituelle, très intelligente, mais en même temps redoutable, ambitieuse, perverse, eh bien, il promet le mariage. Alors qu'au même moment, ses ministres négocient avec Florence le mariage du roi avec Marie de Médicis. Et il signe une promesse de mariage. Et Henriette d'Entraigues va, fort de cette promesse, s'agiter fortement, se lancer dans des conspirations. La conspiration Biron, du maréchal de Biron en 1602, la conspiration de son demi-frère, le comte d'Auvergne, deux ans plus tard. Donc c'est un homme très difficile à cerner et sur lequel le jugement est malaisé à porter, parce que ce n'est pas le magnifique Henri IV de la légende henricienne. Il y a une légende henricienne qui est à mettre en parallèle avec la légende napoléonienne. Beaucoup de traits ne correspondent pas à la réalité. Un jugement plus équilibré mérite d'être porté sur le roi.
Alors pour terminer sur cet amour platonique, et pour terminer, c'est une image parce que c'est le commencement de tout, Condé, malgré son homosexualité, a un honneur et il tient à le défendre. Et l'affaire d'un simple amour platonique va devenir une affaire politique.
Une affaire d'État, la petite tombe amoureuse du roi, une correspondance s'échange entre eux, le poète Malherbe est mis dans le circuit, si je puis dire, il écrit des poèmes, il écrit l'histoire du grand Alcandre, et la petite écrit des lettres qu'on a retrouvées, mon cher et divin astre, mon chevalier, mon tout. Elle est inspirée par le roman d'Honoré d'Urfé, dont le premier tome vient de sortir à ce moment-là, qui est L'Astrée. Et Henri IV lui-même se met à lire L'Astrée. Il se lave, il se parfume, chose qu'on n'avait jamais vue. Et le malheureux Condé se rend compte du rôle qu'on veut lui faire jouer. Il est obligé d'aller à Fontainebleau en particulier, alors qu'il voudrait retenir sa femme dans ses propriétés. Et Henri IV va poursuivre cette jeune femme jusque dans les chasses de Picardie. Brusquement, la petite qui est en carrosse aperçoit un fauconnier et elle se jette dans le fond de son carrosse. C'est le roi. Un peu plus tard, elle voit un postillon avec un bandeau sur l'œil. C'est encore le roi. Le roi est fou d'amour et la poursuit travesti. Tout cela donne lieu à des aventures assez extravagantes jusqu'au moment où, en novembre 1609, le prince de Condé décide de franchir la frontière et d'aller s'installer dans les Pays-Bas espagnols, à Bruxelles. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement innocent parce qu'ils sont mariés, mais c'est un enlèvement quand même. Et pour le roi, c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que le premier prince du sang s'en allant dans les pays espagnols, alors que la France, certes, a signé la paix de Vervins en 1598, mais que les rapports entre les deux pays sont toujours tendus. C'est donc une affaire qui prend une tournure politique.
Passant la frontière, c'est une affaire d'État.
Bien sûr. À cela s'ajoute une crise européenne avec la succession de deux duchés allemands, Rhénan, les duchés de Clèves et de Juliers. Henri IV a pris parti pour les princes protestants, l'électeur palatin et le comte de Neubourg. Et autant les choses auraient pu s'arranger par les négociations, l'enlèvement innocent, lui, va accroître les tensions. Et Henri IV est décidé à se lancer dans la guerre, à partir pour faire le siège de Juliers, qui avait été séquestré par la place de Juliers, qui avait été séquestré par l'empereur Rodolphe II, au nom des princes catholiques, et Henri IV soutenant les princes protestants. Tout cela entraînant, évidemment, à l'intérieur même du royaume, aussi forte contestation de la part des catholiques extrémistes ligueurs. Et malgré cela, Henri IV réunit trois armées, une à Châlons en Champagne, une autre dans la Navarre pour aller combattre les Espagnols, et une autre aussi dans le Dauphiné pour également aller combattre les Espagnols du Milanais.
C'est-à-dire que, j'allais dire très prosaïquement, Henri IV était prêt à faire la guerre et à donner une connotation politique et avec un arrière-fond religieux à une affaire de cœur.
Alors, les deux sont mêlés parce que, en effet, il veut aller soutenir les princes protestants pour la succession de Clèves et de Juliers, mais en même temps, il veut probablement faire un détour par Bruxelles, où se trouve la jeune captive, entre guillemets, pour aller, comme on disait à l'époque, pétarder les murs de Bruxelles et arracher la jeune femme qui a été placée par le prince de Condé sous la protection des souverains des Pays-Bas espagnols. Et ces souverains, c'est un couple, c'est l'infante Isabelle Claire Eugénie et son mari, donc fille de Philippe II, et son mari, Albert de Habsbourg. Tous deux ont reçu en héritage cette sorte d'apanage qui a été constitué pour eux et qui est aujourd'hui, qui représente en gros la Belgique actuelle, à l'exception de l'évêché de Liège, et augmenté du Luxembourg et également d'une très belle province, puisqu'il s'agit de la Franche-Comté. Donc cet ensemble-là forme une unité autonome par rapport à l'Espagne péninsulaire, dirigée par Philippe III et son favori, le duc de Lerma.
Alors, installons, si vous le voulez bien, une histoire parallèle. Vous parlez de cet arrière-fond religieux et politique toujours bien présent. Et il y a une ville en France, Angoulême. Et cette ville, Angoulême, est un bastion du catholicisme. Et c'est d'Angoulême que vient le fameux Ravaillac.
Voilà, du catholicisme ligueur, disons-le. Donc, un catholicisme extrémiste, marqué par les guerres de religion, est très agressif à l'égard de la religion protestante. Au sein du catholicisme, il y a bien entendu plusieurs courants. Le courant qui va l'emporter, c'est celui de la contre-réforme avec Saint-Vincent de Paul, avec le cardinal de Bérulle. Ce courant est beaucoup plus modéré à l'égard des protestants, bien entendu, mais il reste des nostalgiques, des luttes de la Ligue.
Ravaillac était un ligueur ? On peut le considérer comme tel ?
Alors, Ravaillac, c'est le fils d'un ligueur qui est donc, au fond, ce sont des petits notables d'Angoulême. Angoulême, c'est une ville très catholique, comme vous le disiez, dans un environnement protestant. Il y a eu deux tentatives d'assaut de la part des protestants au XVIe siècle. Et lui, les Ravaillac, ce sont des petits notables qui ont essayé de s'agréger à la noblesse et parmi les personnalités les plus importantes d'Angoulême. Le grand-père était procureur au siège royal d'Angoulême. Le fils a été greffier de la mairie. Et puis, à la suite d'une affaire politique, il est disgracié, chassé de la mairie. Il s'est révolté, en effet, contre le duc d'Épernon, gouverneur de la ville. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il tombe, disons, dans la débauche. Il devient ivrogne, tombe dans la mendicité. Il se sépare de son épouse Françoise Dubreuil, laquelle a deux frères, Jean et Nicolas, qui sont les chanoines de la cathédrale d'Angoulême. Et ces deux personnes vont jouer un rôle très important dans la vie de l'enfant de ce couple, le jeune Jean-François Ravaillac, le régicide, qui va être élevé par ces chanoines et élevé dans une fureur anti-protestante extrême.
Vous décrivez bien, parce qu'il y a eu une persécution des catholiques par certains groupes protestants, vous montrez bien ce climat de tension qui existait à Angoulême.
Oui. Alors, le jeune Ravaillac va, vers 12 ans, devenir le petit clerc, valet de chambre d'un procureur qui s'appelle Duport des Rosiers. Et puis, il va passer quelques années à Paris, de 1602 à 1606. Et là, on va commencer à voir que ce n'est pas seulement un catholique fanatique, c'est aussi quelqu'un qui s'adonne à des invocations diaboliques, semble-t-il, d'après certains témoignages, à la magie, à la sorcellerie. En 1607, à Montargis, on retrouvera sur une nappe d'autel une dénonciation concernant, je cite, un grand Rousseau natif d'Angoulême qui, dit-on, d'ici 3 ans, tuera le roi et qui, en attendant, pique des figurines représentant Henri IV. Donc, ce n'est pas seulement un fou de Dieu, c'est aussi un fou tout court. Ce garçon qui va faire de la prison pour dette à Angoulême, alors qu'il sera nommé maître d'école et qu'il aura à peu près 80 élèves, et les parents, faute d'argent, lui donneront un peu de blé, un peu de lard, du vin pour vivre. Mais il accumulera les dettes, il fera un peu de prison. Et c'est à ce moment-là qu'il aura des hallucinations dans sa prison, voyant, entendant des trompettes, voyant des hosties montant et descendant dans l'air. Il est, c'est un personnage dangereux qui aurait mérité d'être soigné.
Il se rend plusieurs fois à Paris et il tente à deux reprises de rentrer dans les ordres.
Alors, il va tenter de rentrer dans les ordres des feuillants, en effet. Et là, le père abbé va rapidement s'apercevoir que c'est un esprit dérangé. Et il va le congédier au bout de 5 à 6 semaines. Il est frère convers chez les feuillants. Donc, c'est un ordre issu de Cîteaux, feuillant de Paris. Et donc, là, c'est une nouvelle déception. Et puis, il veut parler au roi. Ça devient son obsession. À chaque fois qu'il se rend à Paris, il fait quelques voyages, eh bien, il veut parler au roi. Il veut lui dire d'entreprendre une guerre contre les Huguenots. Il vient à la Pentecôte 1609 en particulier. Donc, il n'a aucune intention homicide à ce moment-là. Il y retourne en janvier 1610. Là, c'est là où, au guichet du Louvre, on l'arrête. Le capitaine des gardes du corps, le marquis de la Force, l'interroge, va voir le roi, lui explique qu'il y a un esprit dérangé qui veut absolument lui révéler des secrets. Henri IV dit non, ce n'est pas la peine de l'arrêter, de le garder. C'est vrai qu'il y a eu des quantités de tentatives d'assassinat du roi, il y en a eu une vingtaine. Mais là, il dit non, qu'on le laisse aller. La Force aurait préféré évidemment le mettre en prison, mais il est bien obligé d'obéir. Et donc ce malheureux va se mettre à errer dans Paris, va aller voir un père jésuite, le père d'Aubigny, qui lui aussi va se rendre compte de l'état mental de cet individu. Alors il va lui dire, écoutez, mon ami, dites quelques chapelets, mangez du bon potage et retournez dans votre pays. Mais il n'a pas envie de retourner dans son pays. Et il aperçoit le roi, il aperçoit le carrosse du roi, rue de la Ferronnerie. On est encore en février 1610. Et il dit, sire, que je parle à vous, que je parle à vous. Et il est écarté par les valets. Donc il ne parviendra pas à parler au roi, et il va revenir une nouvelle fois à Angoulême, s'accusant en confession d'homicide, de volonté d'homicide, sans donner le nom du roi. Et puis à nouveau, il va être repris par sa passion, et la veille de la Pâque de 1610, le 10 avril 1610, il est chez un nommé Élie Béliard, qui est un petit notable d'Angoulême, que connaît sa famille. Et là, il entend parler de la volonté d'Henri IV de partir en guerre pour servir les princes protestants en Allemagne, de la volonté du roi de s'en prendre au pape, ce qui est évidemment absurde. Mais à partir de là, il devient très excité et il repart dès le jour de Pâques, sans communiquer. C'est parce qu'il se rend compte qu'il est dans un état de péché et de volonté homicide, il repart pour Paris.
Alors que va-t-il se passer précisément ce fameux mois de mai 1610? C'est ce que nous allons voir après une première pause.
comment le cerveau du mathématicien se mesure à la réalité mathématique. David Ruel, membre de l'Académie des sciences, dresse le portrait de plusieurs célèbres mathématiciens, depuis Newton jusqu'à Alexandre Grothendieck. Les hommes sont-ils les créateurs des mathématiques ? Réponse en compagnie de David Ruel à travers son livre « L'étrange beauté des mathématiques » dans une émission « Au fil des pages », une émission libre écoute et libre téléchargement sur Canal Académie.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à l'assassinat d'Henri IV. Je reçois l'historien Jean-Christian Petit-Fils, auteur d'un livre sur le sujet, un livre paru aux éditions Perrin. Nous avons évoqué la personnalité de Ravaillac. Nous sommes dans les premiers mois de l'année 1610. L'assassinat a lieu le 14 mai. Mais alors, il y a un fait important qu'il faut prendre en compte. C'est la question du couronnement. Nous avions laissé le roi amouraché de cette Charlotte de Montmorency, mais malgré tout, la Médicis va être couronnée reine de France, ce qui, pour elle, est une onction, et on ne va pas dire un signe d'amour, mais une volonté du roi d'affirmer son importance.
Alors, Marie de Médicis a beaucoup insisté pour être couronnée, en effet, comme sa cousine lointaine Catherine de Médicis, parce que ça va conforter évidemment sa position de reine. Et elle est poussée par tout un parti pro-espagnol qui, en effet, voudrait contrebalancer l'influence du parti protestant qui est aussi en place à la cour, avec en particulier le duc de Sully, surintendant des finances, et un certain nombre de chefs militaires, comme le marquis de la Force, que je citais tout à l'heure, le duc de Lesdiguières, etc. Donc c'est une lutte d'influence autour d'Henri IV qui va conduire le roi, par lassitude, parce qu'il ne tient pas tellement à ce que sa femme soit couronnée, à accepter ce couronnement. Et le couronnement va être décalé plusieurs fois. Il était prévu pour le 1er mai 1610. Il est décalé au 6 mai 1610 et ensuite reporté au 10 et enfin au 13. Et il a lieu au 13 à Saint-Denis. Ce décalage est important pour comprendre le comportement de Ravaillac. Ravaillac dira lors de son procès qu'il voulait tuer le roi après le couronnement de la reine. Et en effet, il va le faire puisque le lendemain, 14 mai, il assassine Henri IV, rue de la Ferronnerie, de trois coups de couteau, dont un mortel puisqu'il tranche la veine cave et probablement touche l'aorte. Cet assassinat avait été prémédité, mais c'est seulement quelques jours auparavant que Ravaillac avait volé un couteau dans une hôtellerie et qu'il a profité d'un embarras de charrette rue de la Ferronnerie, une nouvelle fois. Donc cette petite rue qui conduit à la rue Saint-Denis, très étroite, parce qu'il y a des échoppes qui se sont construites le long du cimetière des Saints Innocents. Le carrosse est obligé de s'arrêter à cause de cet embarras de charrettes. Une charrette de foin, une autre chargée de tonneaux de vin. Les valets, pour faire avancer ces charrettes, passe par le cimetière des Saints Innocents. Il y a un chemin qui permet de le faire, de sorte que le carrosse, qui a une toute petite escorte, se trouve à la disponibilité du tueur qui a suivi depuis le Louvre le carrosse du roi. À ce moment-là, il se précipite et il tue le roi. Donc c'est à ce moment-là le duc d'Épernon, qui est à côté du roi, qui est un des gentilshommes de la cour du roi, mais aussi gouverneur d'Angoulême, c'est important, dit « Surtout, ne le tuez pas, il faut le garder vivant. »
Ce qu'il y a d'important, je reviens peut-être un peu avant, c'est vous parliez tout à l'heure des différentes tentatives d'assassinat du roi. Je citais en début d'émission les écrits de Richelieu. Il y a des signes avant-coureurs. C'est une époque où il y a une forme d'annonciation d'un drame imminent dans la population.
C'est-à-dire que dans la population, dans certains secteurs de la population, on est sensible aux idées tyrannicides. Et en effet, il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat du roi. Certains menés par un nommé Pierre Barrière, un autre Jean Chastel, qui était un névrosé, mais influencé par les jésuites. Et les jésuites vont payer cette tentative d'assassinat par leur expulsion. Après, ils reviendront rappelés par Henri IV, mais le Parlement poussera à leur expulsion en 1595. D'autres encore, un nommé Guédon, un jésuite nommé Varade, encore un jacobin Ridikov, tous ces gens veulent tuer le roi au nom du principe selon lequel on peut tuer un tyran. Alors, ces théories tyrannicides avaient longtemps été examinées par les théologiens. Ça commence par saint Augustin, ensuite ça se prolonge avec saint Thomas d'Aquin. On distingue entre le tyran d'exercice et le tyran d'usurpation. Le tyran d'usurpation, c'est celui qui prend le pouvoir, évidemment, et puis qui se comporte comme quelqu'un ne respectant aucune liberté, nullement la personne humaine. En revanche, le tyran d'exercice, c'est celui qui est légitime au départ et puis qui va se transformer en un fou sanguinaire. Faut-il les tuer ? Saint Thomas d'Aquin et au préalable saint Augustin disaient faut vraiment réfléchir, il faut vraiment qu'il y ait une décision d'autorité légitime à côté du roi décidant de la mise à mort du tyran pour que on puisse considérer que le tyrannicide soit admissible. Luther et Calvin avaient le même comportement. En revanche, à partir des guerres de religion que se développe cette théorie avec Théodore de Bèze chez les protestants, Jean Boucher, un curé de Paris, qui va faire une apologie de Jean Châtel en particulier, et qui va être obligé de fuir la France et d'aller se réfugier dans les Pays-Bas espagnols. Et puis deux jésuites, deux théoriciens jésuites, Juan de Mariana et Emmanuel de Sa, qui se mettent à rédiger des traités justifiant le tyrannicide de façon assez banale, assez courante. Et là, ces idées-là vont aller jusqu'à Angoulême. Et quand on posera la question à Jean-François Ravaillac, qui vous a poussé ? Il répondra, les sermons que j'ai ouïs, auxquels j'ai appris les causes pour lesquelles il était nécessaire de tuer les rois. Ce qui montre bien l'influence des théories tyrannicides sur le comportement de Ravaillac.
Alors précisément, vous parlez de l'interrogation de Jean-François Ravaillac, comment va se passer le procès ? On est étonné par sa rapidité et par la rapidité finalement de la sanction. C'est une justice un peu plus expéditive que la nôtre.
Voilà, ça c'est un sujet d'étonnement. En effet, c'est un procès bâclé. On ne fait pas venir les parents d'Angoulême, on ne les interroge pas, le père, la mère, qui sont séparés parce que le couple s'était déchiré du fait de la perte d'emploi du père, Jean. On ne fait pas venir le nommé Élie Béliard, chez qui Ravaillac a pris sa décision en avril 1610 de tuer le roi. On n'interroge pas non plus les soldats que Ravaillac a rencontré et qui lui ont dit que si jamais le roi partait en campagne, en effet, il serait obligé de le suivre, d'obéir à ses ordres. Mais c'est presque une manière de le pousser à tuer le roi, parce que Henri IV s'apprête en effet à partir en campagne. Le 19 mai, il se rendait à Châlons et à la tête de son armée, pénétrait dans le territoire des Pays-Bas espagnols, notamment en Luxembourg. Donc, on a bâclé ce procès et on peut s'interroger beaucoup, bien que Ravaillac ait dit à plus de 15 fois qu'il avait agi seul, si vraiment il s'agit d'un acte isolé d'un demi-fou, s'il a été un agent conscient d'une conspiration et qui aurait reçu, par exemple, une absolution secrète d'un prêtre fanatique, et donc, par le jeu des restrictions mentales, aurait pu toujours s'obstiner à nier la moindre complicité, ou si, ce que je pense, il a été suggestionné, manipulé par d'autres.
Alors, nous allons revenir sur cette fameuse suggestion. Est-ce que, malgré tout, parce que vous le présentiez tout à l'heure comme un personnage qui, pendant son carême, se confesse, communie ou ne veut pas communier parce qu'il a des intentions criminelles, est-ce qu'il a le repentir après l'acte ?
Au début, non. On l'arrête immédiatement, on l'enferme à l'hôtel de Ré et puis on va l'enfermer à la conciergerie. Au début, non, il a beaucoup de forfanterie. Il dit il faudrait savoir si le roi très chrétien, ce que je conteste. Et puis, il va quand même admettre qu'il a été poussé par Satan, c'est ce qu'il va dire, par le mal. Et donc, il va regretter, en quelque sorte, son geste.
Il aura l'absolution, il réussira à obtenir une absolution.
Alors, son supplice est abominable, il va se dérouler le 27 mai, donc quelques jours après l'assassinat. C'est donc l'écartèlement, mais au préalable, il a subi le supplice des brodequins, donc on a serré ses genoux et on a enfoncé des coins à coups de maillet pour qu'il parle. Et là, il dira qu'il n'a pas de complice. Ensuite, il fait amende honorable devant Notre-Dame et il est conduit place de Grève, où là, on lui brûle d'abord la main criminelle qui a porté le couteau. On lui verse sur cette main du soufre, de la poix brûlante. On tenaille au fer rouge le buste du malheureux, ses cuisses. On lui arrache les tétins. On jette du plomb et du soufre fondu. Le malheureux crie Jésus-Maria et demande un salvé Regina. La foule hystérique refuse, alors qu'il a deux docteurs en Sorbonne qui sont près de lui, M. Gamache et Filzac, qui vont, malgré cette volonté de la foule, qui considèrent que c'est un régicide et que par conséquent, c'est comme Judas, puisque le roi, c'est le représentant de Dieu sur la terre, et donc on ne peut pas pardonner à Judas. Eh bien, les deux docteurs en Sorbonne, finalement, lui donneront l'absolution et la communion, sous condition, bien sûr, qu'ils disent la vérité. Et à nouveau, Ravaillac dira « J'accepte sous condition que vous me donniez l'absolution. Si je mens, j'irai en enfer, mais je veux la communion. » Et en effet, on lui donne l'absolution et la communion juste avant d'être écartelé par quatre chevaux. C'est un supplice horrible. La foule, à nouveau, se précipite sur les restes du malheureux. On brûle sa chair. Certains se précipitent pour la dévorer. Ça fait partie des horreurs de l'Ancien Régime. On reproduira le même système avec Damien sous Louis XV. Damien qui avait donné un simple coup de canif à Louis XV pour l'avertir et non pas pour le tuer.
Alors, la date que vous donniez est importante, c'est le 27 mai. Or, dans votre livre, vous expliquez que le 14 mai, donc bien quelques jours avant, eh bien, l'affaire aurait pu rebondir par l'accusation, au fond, d'un complot qui touchait donc le roi, un complot entourant la marquise de Verneuil.
Oui, alors, quelques temps après la mort d'Henri IV, quelques mois après, en 1611, en janvier, le 15 janvier, il y a une petite femme bossue qui s'approche de la reine Margot, Marguerite de Valois, la première épouse d'Henri IV, qui fait ses dévotions à l'église Saint-Victor et qui lui dit « J'ai des révélations à vous faire ». La reine Margot hésite, puis finalement la fait venir à son hôtel. Et celle-ci lui déclare qu'elle s'appelle Jacqueline Levoyer, qu'elle a épousé un soldat qui s'appelle Isaac de Varennes, sieur d'Escommans. Et elle raconte qu'elle a été la femme de confiance d'Henriette d'Entragues, marquise de Verneuil, donc la favorite, la dernière favorite d'Henri IV, et qu'elle a entendu le duc d'Épernon et la marquise de Verneuil à la Noël 1606 tenir d'étranges propos dans l'église de Saint-Jean en Grève. Quelque temps plus tard, elle recevra un billet, c'est ce qu'elle dira en tout cas, de la marquise de Verneuil lui demandant d'héberger un individu qu'elle lui recommande, et cet individu, c'est Ravaillac. Et pendant 8 semaines, en 1609, elle va garder cet individu qui, au mois de juin, la suppliera de se taire parce que, au préalable, il lui a laissé entendre qu'il voulait tuer le roi. Donc ce sont des révélations sensationnelles. Elle veut elle-même se rendre à Fontainebleau et c'est au moment où elle est arrêtée et elle ne sera libérée, elle sera mise à la conciergerie, elle ne sera libérée qu'en janvier 1611, donc après la mort du roi. Donc c'est tout à fait étonnant, évidemment, et si les dires d'Escommans s'avèrent authentiques, eh bien là, nous avons la preuve du complot. Mais est-ce que la d'Escommans a dit vrai? Toute la question est là.
Ce qui n'était pas une petite chose, parce que si elle donnait des informations fausses, elle était jugée en conséquence pour avoir donné des informations fausses et pour subir le châtiment du condamné. Donc elle risquait sa vie.
Voilà. Alors, à partant de ces révélations, et puis de quelques autres éléments, eh bien, deux historiens, Michelet et puis ultérieurement Philippe Erlanger, ont imaginé qu'il y avait un vaste complot menée donc par la marquise de Verneuil, déçue d'avoir été abandonnée par Henri IV, qui n'avait pas honoré sa promesse de mariage, toujours cette promesse de mariage, par le duc d'Épernon, qui est l'archimignon d'Henri III, qui est pro-espagnol viscéralement, soutenu ce complot par le roi d'Espagne Philippe III, puisqu'Henri IV s'apprêtait à entrer en guerre, par les Concini, les conseillers de Marie de Médicis, et Marie de Médicis elle-même, petite nièce de Charles Quint, ayant été mise plus ou moins au courant de l'affaire. Alors, est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai repris l'ensemble du dossier, en particulier du procès de la Descommande qui va se dérouler au Châtelet, et on s'aperçoit, et devant le Parlement, on s'aperçoit que cette femme est une mythomane. Elle n'est certainement pas la conseillère, l'amie intime de la marquise de Verneuil. On va interroger des valets, des domestiques, des proches de la marquise. On va interroger aussi son aumônier, Mathurin Renaudin, qui dira « Ah oui, en effet, cette femme d'Escommand, elle venait de temps en temps solliciter l'aumône auprès de la marquise », ce qui montre bien que toute cette affaire se dégonfle. On demandera aussi à la Descommand, produisez donc le billet de la marquise de Verneuil, vous demandant d'héberger le nommé Ravaillac. Elle dira, je l'ai donné à Paris à une vieille femme, alors elle donnera son nom. On va faire des recherches et on s'apercevra que cette femme s'est retirée en province depuis 7 ans. Donc tout cela nous conduit à considérer que c'est une mythomane. On lui demandera encore, décrivez-nous Ravaillac. Et elle montrera un petit valet barbu, disant, il ressemble à ce personnage. Alors que tout le monde sait que Ravaillac était un personnage athlétique, grand, à la barbe rousse, qui était vêtu toujours à la flamande. Donc ça n'a rien à voir. Voilà, donc on a l'impression que là, il y a eu mythomanie et que ce manifeste de la Descommand, qui sera publié en 1616, le sera pour des raisons politiques sous la régence de Marie de Médicis.
Alors justement, avant de venir à votre conclusion et finalement à vos trouvailles, d'autres thèses seront avancées. On avancera même l'idée que c'est la reine elle-même qui a commandité l'assassinat ou bien les consignes, le fameux consignes voilà. qui aura plus tard un tout autre sort. Ou bien même, enfin, l'Espagne, bien évidemment.
Voilà. Donc, on a toutes les données du problème sont posées par ces déclarations de la Descommand. Mais quand on est sous pèse, on s'aperçoit que les choses ne tiennent pas. Il y a également une déclaration d'un nommé Lagarde, le capitaine de Lagarde, qui prétendra avoir rencontré Ravaillac à Naples en 1608. C'est tout à fait étonnant que ce Ravaillac aurait servi dans la compagnie des gendarmes du duc de Biron. C'est tout à fait étonnant de la part de cet individu dérangé. Et on a un certain nombre de pièces trouvées dans les archives des notaires montrant que Ravaillac était tout simplement resté chez lui à Angoulême en 1608. Donc tout cela n'est pas très crédible. En revanche, il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant, et c'est là que j'ai été lancé dans cette histoire, c'est l'annonce de la mort du roi dans les pays étrangers, en particulier en Belgique.
C'est ce que nous allons voir, Jean-Christian Petit-Fils, après cette deuxième et dernière pause. Nous nous retrouvons dans un instant. Restez à l'écoute de Canal Academy, je reçois Jean-Christian Petit-Fils, auteur du livre « L'assassinat d'Henri IV, mystère d'un crime » paru aux éditions Perrin. Jean-Christian, nous avions laissé nos auditeurs avec la piste, la dernière piste qui jusqu'à présent n'avait jamais été explorée. Vous avez parlé du complot de la marquise de Verneuil qui a été repris par Michelet, qui a été repris par Philippe Erlanger, qui a été démonté par Jules Loiseleur au 19e siècle. Vous avez trouvé une piste qui nous mène tout simplement en terre flamande.
Voilà, ça a été le point de départ d'ailleurs de mon enquête quand j'écrivais mon ouvrage précédent sur Louis XIII. J'avais trouvé à la Bibliothèque nationale le rapport d'un certain Villiers Hautement, qui est un diplomate français qui avait été chargé de faire une enquête sur les bruits courants dans les Pays-Bas espagnols, courants dans les pays rhénans, et montrant que quelques jours avant la mort du roi, eh bien, on avait annoncé cette mort comme un fait avéré. 8 jours, 10 jours, 12 jours, 15 jours avant, on annonce aussi bien à Bruxelles, à Anvers, à Dinan, à Bois-le-Duc, à Cologne, là où Villiers s'est rendu en particulier, à Lille, qui était également une grande ville flamande à ce moment-là, qui n'était pas une ville française, que le roi a reçu un coup de couteau et qu'il est mort. Et on donne beaucoup de précisions. On raconte que, et ce sont des commerçants qui échangent des correspondances, qu'un certain individu s'est rendu à Paris pour le bien de la chrétienté, qu'il a habité Bruxelles, qu'il a reçu une gratification de 2000 livres. L'ambassadeur de Hollande à Paris, Darsen, dira qu'il pourra produire par centaines des témoignages identiques. Marie de Médicis elle-même sera prévenue de cette curieuse affaire par son orfèvre. Et puis, on retrouvera dans les papiers d'Henri IV, c'est Marie de Médicis elle-même qui le retrouvera en fouillant dans ses secrétaires, une lettre de la princesse Charlotte de Montmorency, donc princesse de Condé, lui disant de se défier de ses ennemis qui n'ont pas la capacité militaire de réagir et qui veulent le tuer. Alors, tout cela nous conduit à penser qu'il y a peut-être à suivre une piste belge. Et en particulier, cette piste nous conduit au souverain de Belgique, Albert de Habsbourg. Ce premier sentiment a été renforcé par un document très peu utilisé par les historiens qui avait été publié au XIXe siècle dans un recueil d'histoire diplomatique, qui est une lettre de Jacob Enjolras, ambassadeur de Genève à Paris. J'ai fait venir cette copie de cette lettre des archives de Genève. Elle n'avait pas été très bien transcrite. Et on s'aperçoit, lettre datée du 23 mai 1610, donc quelques jours après la mort du roi, que dans ce document figure le nom de l'archiduc Albert. Un certain individu a promis qu'il ne manquerait pas le roi quand il l'attaquerait au Louvre. On donne des noms, membres des organisateurs de la conspiration. La conspiration a été montée par un proche d'Albert, le comte de Salnove, Charles-Emmanuel de Marmier de Salnove, que son adjoint se nomme Lamotte, qu'un tueur est parti de Bruxelles vers le 23 avril, donc quelques jours après l'arrivée de Ravaillac, lui qui est arrivé le 18 avril à Paris. Tout cela nous montre qu'il y aurait bien eu, disons, parce que l'historien doit bien entendu rester prudent, une conspiration. Dans les comptes de la recette générale de Lille, on trouve étrangement, à côté de quelques pensions de 100-200 livres ou quelques gratifications données à des espions qui vivent en France par l'archiduc Albert, la mention pour l'année 1610 et nullement pour les autres années, d'une gratification de 15 000 livres, je cite, « dont on ne veut faire plus ample déclaration ». C'est assez étrange. Voilà, de là à penser qu'un complot avait été organisé par l'archiduc Albert et son proche collaborateur, le comte de Salnove, pour assassiner le roi. Les Pays-Bas espagnols se trouvaient dans une situation très, très inconfortable. Pendant très longtemps, l'ambassadeur Pécius, qui était leur représentant à Paris, leur avait dit « Attention, l'affaire peut s'arranger, il suffira que vous promettiez de rendre la princesse de Condé, on arrivera à un accommodement. » Et Henri IV, d'ailleurs, soufflait le chaud et le froid. Et puis au dernier moment, on s'aperçoit que le roi va partir en guerre. Il est prévu qu'il se rende à Châlons-en-Champagne, je l'ai dit, le 19 mai. On peut se demander si, faute de moyens militaires, faute de mobilisation, eh bien, l'archiduc n'a pas résolu cette décision d'assassiner le roi.
Vous le présentez comme un personnage assez humilié, Albert de Habsbourg.
Oui, c'est un personnage méprisé par Philippe III, donc qui règne à Madrid, qui a placé auprès de lui un certain nombre de castillans, les confesseurs, les ministres, et il est au fond un souverain d'opérette. On lui a donné en apanage avec sa femme Isabelle les Pays-Bas espagnols. En réalité, tous les fils sont tirés de Madrid. Et on peut penser que sa volonté de tuer le roi est une sorte d'acte de manifestation de sa puissance. Parce que quand on regarde les archives de Simancas, quand on regarde les correspondances des ambassadeurs espagnols, on s'aperçoit que il n'y a rien, que l'Espagne n'a pas prévu le coup. Contrairement à ce que disait Philippe Erlanger, le complot espagnol s'effondre, sauf pour sa partie des Pays-Bas espagnols. C'est assez étrange. Alors on pourrait imaginer que l'Espagne, après s'être rendu compte que c'était, en effet, le coup était parti de Bruxelles, eh bien, a évidemment fait le ménage dans ses archives. Parce que c'est un autre fait. C'est que quand on regarde ses archives, que ce soit les archives de Simancas en Espagne, celles de Bruxelles, de Vienne, de Turin, donc toutes les archives des maisons liées à la maison d'Autriche, on s'aperçoit qu'il y a des trous très importants dans la correspondance. Et notamment, ce ne sont pas quelques dépêches ou une ou deux dépêches qui ont disparu, mais il y a un trou qui va du mois de mars 1610 au mois de juin 1610. Alors, l'Espagne a-t-elle fait le ménage ? Quelque chose aussi de très étonnant, c'est ce registre de la conciergerie qui est conservé aux archives de la préfecture de police de Paris, que j'ai été voir. Et on nomme autant quelques jeunes individus qui se sont exclamés qu'ils iraient tuer le roi également, comme l'affaire Ravaillac. Et alors, bien sûr, ces jeunes, on les enferme et parfois même on les supplicie. En revanche, tous ceux qui ont été plus ou moins mêlé, semble-t-il, à cette affaire, en particulier un maçon qui avait reçu, nous dit Pierre de l'Étoile dans sa correspondance, des lettres et de l'argent, qui avait 2000 livres sur lui. 2000 livres, ça rappelle les 2000 livres des bruits qui couraient à Bruxelles. Et qui avait reçu, nous dit Pierre de l'Étoile, de l'argent de l'archiduc. Ça, c'est un premier cas. C'est un autre, un soldat Saint-Martin, nommé Saint-Martin, qui, 8 jours avant l'assassinat du roi, rencontrant une veuve de son capitaine, lui dit, en l'accompagnant au temple de Charenton, « Regardez tout autour du temple, il y a un certain nombre d'ultra-catholiques, là, ce sont des gens pro-espagnols, ce sont des agents de l'étranger, il y a un manchot, il y a un faux manchot. » Et puis il lui dit « Tiens, il y en a un que j'ai l'habitude de voir, qui n'est pas là. » C'est un homme habillé de vert qui normalement aurait dû se trouver là. Et celui qui est toujours habillé de vert, à la flamande, c'est Ravaillac. Donc, ça montrerait qu'il y a eu collusion entre les tueurs de l'archiduc, arrivé à Paris le 23 avril, et le fameux Ravaillac. Un autre élément aussi, c'est le fait que au moment du supplice, il dira « Hélas, on m'a bien trompé quand on a voulu me persuader que le coup que je ferais serait bien reçu du peuple. On. Qui on ? Puisqu'il n'avait pas complice. » C'est ce qu'il dit. Juste après l'assassinat du roi, Ravaillac se tient là, hébété, avec son couteau, sanglant dans les mains. Le duc d'Épernon dit « Surtout, ne le tuez pas. » On va donc se saisir de lui. Et c'est à ce moment-là que, de la rue de la Ferronnerie, surgit un groupe très structuré, très organisé, 8 à 10 personnes à pied, 2 à cheval, hurlant « Il faut qu'il meure !» Et ce groupe, ce sont des gens armés, qui disent « Il faut qu'il meure, tue !» Et au lieu de porter secours au roi qui est en train de mourir dans son carrosse, eh bien, on ne songe qu'à tuer l'assassin. Étrange, ça rappelle un peu l'affaire Kennedy et l'assassinat de Lee Harvey Oswald par un autre individu qui était Ruby, en l'occurrence.
C'est véritablement passionnant. Je voudrais revenir quand même sur ce personnage Albert, parce que vous le dites vous-même, vous posez la question de savoir s'il était dans son droit, parce qu'il n'a menacé personne. Il est resté fidèle à sa parole, à son honneur d'hôte, puisque le Condé est venu à lui. Est-ce qu'Albert était, par cet acte, si c'est bien lui qui l'a commis, dans une forme de droit ?
Mais il pouvait considérer qu'il était dans une forme de droit. Henri IV, se précipitant chez lui dans ses états pour arracher la femme d'un autre, alors qu'il avait obtenu des assurances du pape en particulier que son comportement était tout à fait légitime et que le couple devant se séparer, Bon, le couple des Condé, ils ne se sépareront pas, puisque Henri II, prince de Condé, et Charlotte de Montmorency auront plusieurs enfants, notamment le grand Condé, bien sûr. Mais à ce moment-là, il était donc dans son bon droit, il considérait qu'il était dans son bon droit et que Henri IV se comportait comme un tyran. D'où on peut penser que lui aussi a eu en tête ses idées de tyrannicide. Et il faut dire aussi que dans les Pays-Bas espagnols, tous les opposants, les ultra-catholiques, trouvaient facilement refuge. J'ai parlé de Jean Boucher, qui avait fait l'apologie de Jean Châtel, qui a trouvé refuge dans les Pays-Bas espagnols. Mais les catholiques qui avaient comploté la mort de Jacques Ier et la fameuse conspiration des poudres avait également un pied-à-terre à Bruxelles. Le fameux Guy Fawkes, celui qui a fait sauter, qui voulait faire sauter le Parlement et le roi et la famille royale, eh bien, avait servi dans les troupes de l'archiduc Albert. Donc, les Pays-Bas espagnols étaient le refuge de tous les extrémistes, beaucoup plus d'ailleurs que la cour de Madrid ou que la cour de Milan.
Est-ce que, au fond, Ravaillac n'atteint pas son but ?
Alors, est-ce qu'il n'atteint pas son but ? On peut dire que peut-être dans les premiers temps, c'est vrai que la régente Marie de Médicis va orienter la politique française, réorienter la politique française de façon plus accommodante
d'ailleurs, on ne l'a pas
à l'égard de l'Espagne, bien sûr.
D'ailleurs, on ne l'a pas dit, ce n'est pas un hasard s'il commet son acte après le couronnement de Marie de Médicis.
Oui, mais alors c'est là où ça nous relance dans l'affaire de la collusion avec ce groupe de tueurs belges, puisque comme le couronnement a été décalé, ça nous permet de comprendre pourquoi le bruit de la mort d'Henri IV a couru avant sa réalisation, puisque les tueurs belges devaient probablement avoir pour instruction d'attendre le couronnement de Marie de Médicis de façon à conforter un pouvoir catholique à Paris, et éviter que ce soit les protestants, en particulier le tout-puissant Sully, qui prennent le pouvoir et qui assurent la régence avec une reine ligotée. Donc, il était important d'avoir un couronnement. Et ce qui est étrange, c'est que ce demi-fou de Ravaillac s'est halluciné et eut le même raisonnement. Peut-être lui a-t-on suggéré.
Eh bien, c'est sur cette interrogation, Jean-Christian Petit-Fils, que nous allons nous quitter. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage passionnant, véritable roman policier. Hein. Vous reprenez tous les éléments de l'enquête, vous les remettez à plat en évoquant toutes les hypothèses, et notamment cette dernière hypothèse, la piste flamande, l'assassinat d'Henri IV, mystère d'un crime, un ouvrage paru aux éditions Perrin. Merci beaucoup.
Merci.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire. Thank you.